En fait, c'est pas si facile que ça de raconter des histoires à la radio.
Non.
Alors je vais vous raconter une histoire passionnante.
Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.
Eh bien, cette histoire est fausse.
Puis le passé, c'est le passé, je ne veux pas reparler.
Tu parles d'une connerie. Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Tu parles d'une histoire.
Bonjour à tous et bisous sur vos crânes. Nous sommes le 27 mai 1942 à Prague, pas très loin du château qui domine la ville. Il fait beau, mais les deux hommes qui se tiennent là ne sont pas là pour profiter de la douceur du printemps. Ils guettent un officier allemand dont tout le monde à Prague connaît la silhouette. Un homme de 38 ans, grand, blond, élancé athlétique. C'est un des meilleurs escrimeurs allemands, un violoniste doué, un homme cultivé, intelligent. C'est surtout un des hommes les plus puissants de l'appareil nazi, derrière le Führer bien sûr, mais tout près de Himmler, le chef des SS. Heydrich est au sommet de sa puissance. Il gouverne de fait la Bohème Moravie, il dirige surtout le RHSA, c'est-à-dire la Gestapo, la police criminelle, et en schématisant un peu tout l'appareil policier du Reich. C'est aussi au RHSA et donc à Heydrich qu'on a laissé le soin de planifier, d'organiser la solution finale, autrement dit l'extermination des Juifs d'Europe. Heydrich fait ce qu'il sait faire, il travaille avec méthode, il imagine les détails du génocide, son fonctionnement, ses rouages. Il identifie les difficultés et il les résout. Quand l'année 42 commence, la guerre est à un tournant, Hitler a presque atteint son objectif, l'Europe est largement sous contrôle et ses armées sont proches de Moscou. Mais que l'URSS survive à l'hiver et le cours du conflit peut s'inverser. Depuis Londres, Churchill fait pression sur le gouvernement tchèque en exil. Pourquoi ? Parce que la résistance intérieure est trop dispersée pour agir, alors que les usines de Bohème fournissent une grosse part de l'arsenal militaire du Reich. Et comme c'est trop loin pour des opérations de bombardement, il faut une action éclatante, quelque chose qui galvanise un peuple, un symbole comme l'assassinat de Heydrich, la bête blonde. Or, Churchill sait très bien qu'une opération pareille donnerait lieu à des représailles inouïes contre la population tchèque, mais c'est précisément sur ça qu'il compte pour faire naître un mouvement de résistance profond, dur et solide. En octobre 41, la décision de monter l'attentat est prise. Nom de code, opération Anthropoïde. Un Slovaque et un Tchèque, Jozef Gapsik et Jan Kubis, sont choisis et soigneusement entraînés par les Brits. Le 28 décembre 41, ils sont parachutés à l'est de Prague et pendant 5 mois préparent soigneusement l'attentat. Il faut étudier Heydrich, ses habitudes, savoir par où il passe, à quelle heure, avec quel type d'escorte. Leur atout, c'est son arrogance. Pour montrer aux Tchèques qu'il ne craint rien, la bête blonde se déplace souvent en voiture découverte. Le 27 mai 1942, vers 10h30, Heydrich se lance dans le trajet habituel qu'il mène de chez lui à son bureau au château de Prague. Au moment où sa Mercedes passe devant l'arrêt de tram, Gapsik se jette devant la voiture et ouvre le feu. Enfin, il essaie, mais c'est un bide. Son fusil mitrailleur s'enraye, pas une cartouche ne part. Évidemment, ni Heydrich ni son chauffeur ne chantent des cantiques. Heydrich se lève, sort son pistolet, va pour tirer, quand Kubis balance une grenade derrière lui. Là encore, c'est raté. La grenade pète à 2 bons mètres de la bagnole, mais tout de même, le souffle secoue Heydrich, qui prend quelques éclats dans le dos. Mais bon, l'attentat est un échec total. C'est du moins ce que se disent les deux paras dans leur fuite. Et pourtant, Heydrich va bien mourir une semaine plus tard, probablement à cause d'un cheval. Eh oui, les fragments qui l'ont atteint dans le dos sont passés à travers les sièges de la voiture et ses coussins, ils sont rembourrés avec du crin de cheval. Alors que l'opération chirurgicale s'est bien déroulée, ses blessures s'infectent, Heydrich démarre une septicémie foudroyante et casse sa pipe. Foudrage, Hitler déchaîne l'enfer sur la Bohème, 13 000 personnes sont arrêtées, 5 000 au moins seront exécutées ou gazées. Quant aux commandos, j'aimerais vous dire qu'ils s'en sont sortis, mais non. Dans leur cavale, leur petit groupe se réfugie dans une église, mais Karel Kurda, un résistant local, finit par les donner, attiré par la récompense d'un 1 000 000 marks, promise par les Allemands. Kurda balance une des familles qui avait caché les parachutistes, les Moravetch. Monsieur Moravetch ne savait rien, mais sa femme et son fils s'étaient impliqués. On les tient sous bonne garde, évidemment, mais Madame Moravetch obtient pourtant le droit d'aller aux toilettes. Elle y avale une capsule de cyanure. Un geste d'un courage sans nom, mais un geste inutile comme est inutile le courage de son fils, Atta, qu'on torture des heures et des heures, Atta qui on brise les dents, Atta qu'on saoule de force au cognac, Atta qu'on oblige à regarder la tête coupée de sa mère. Alors Atta craque, parle de l'église, 700 SS passent à l'assaut, 3 résistants, dont Kubis, tombent dans la salle de prière après 2 heures de fusillade. Les quatre derniers, dont Gapsik, se suicident dans la crypte. À 700 contre 7, les Allemands laissent 14 des leurs. L'opération Anthropoïde est le seul assassinat réussi d'un dignitaire nazi de haut rang de toute la guerre. Comme disait Terry Pratchett, l'histoire a toujours quelques tours dans son sac. Après tout, elle est là depuis longtemps.
Everybody has a dark side, but because we are civilized, we push it down. Unless someone comes along and legitimizes those feelings.
Nova.